cette série de podcasts inédits est tiré de la première biographie du maestro Ennio Morricone, intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, parue aux éditions Marie-Bay et signée Philippe Grégoire. Nous proposons une suite de focus par périodes successives sur la vie et l'œuvre de Morricone. Ce second podcast, intitulé « Sainte-Cécile et seconde trompette », traite de la formation du compositeur de 1939 jusqu'en 1954. En 1939, Ennio Morricone a tout juste 11 ans. Et cette année marque pour lui un tournant décisif, car son père Mario décide de son orientation sans lui demander son avis. Ce sera l'apprentissage de la trompette, comme lui, et dans les meilleures des académies, l'Académie Sainte-Cécile, située au cœur de Rome. « J'ai élevé toute ma famille avec cet instrument, tu feras la même chose avec la tienne », lui affirme-t-il. L'Académie Sainte-Cécile, l'Académie nationale Sainte-Cécile, forme tout le contraire de ce dont rêve un garçonnet de son âge. La vie y est austère, pleinement consacrée à l'étude de la musique, sous la coupe sévère de professeurs rigoureux, compétents, souvent réputés et pleinement investis dans leur mission. L'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome représente l'une des plus anciennes sociétés musicales au monde. Son orchestre fut le premier à se consacrer à des œuvres issues du répertoire symphonique. En 1919, l'institution fut transformée en conservatoire d'État dont la réputation internationale ne faillira jamais. En vérité, la trompette ne formait que l'un des aspects de l'enseignement dispensé au conservatoire. De nombreux autres instruments y étaient enseignés, notamment le piano, le violoncelle, etc. Mais encore l'histoire de la musique, l'harmonie, la composition, pour ne s'en tenir qu'à ces quelques matières. À l'extérieur, une déflagration mondiale était sur le point d'éclater, des temps difficiles s'annonçaient pour se nourrir, se chauffer, se déplacer, se soigner. Entre les murs épais d'une institution séculaire, l'élève était sur le point de s'ouvrir à la musique, sous la direction de professeurs talentueux, étonnés par la progression de leur élève, ainsi que par son brio et son intelligence. Ces années charnières au Conservatoire Sainte-Cécile allaient le marquer à vie, et pas seulement dans son travail. C'est toute la maîtrise de son art qu'il allait acquérir et affiner, avec une curiosité et une ardeur insatiables et, au-delà, sa propre conception de la vie. Mario, son père, ne limita pas le nouvel univers de son fils à Sainte-Cécile. Très vite, il l'enjoignit à l'accompagner le soir au sein de formations musicales. Il l'embaucha en qualité de second trompette dès que sa maîtrise de l'instrument le lui permit. Les rares fois où Ennio Morricone évoqua ses dures années, il pointa la fatigue qui en résultait. « Dès le début de mon adolescence, je jouais avec mon père dans les nightclubs et les music halls de Rome pour aider ma famille à gagner de l'argent. » Les Allemands appréciaient le jazz américain, interdit sous le régime fasciste italien. Ils voulaient s'amuser, dîner, boire et s'amouracher de filles à l'amour tarifé. En guise de rémunération, Mario et son fils se contentaient de cigarettes et surtout de nourriture. J'allais au lit très tard, alors que j'étais attendu au conservatoire le jour, expérimentant à la fois le meilleur et le pire de la vie de musicien. L'essentiel de ces journées reposait sur l'étude et la pratique de la trompette. Quant aux cours généraux, mathématiques, italien, histoire, géographie, etc., ils les suivaient en parallèle, à l'école salésienne, tout près de l'appartement familial. Malgré des nuits souvent courtes, il devait conserver sa concentration et jongler entre les leçons musicales à Sainte-Cécile, les cours généraux au lycée et les nuits au sein de l'orchestre paternel. Il s'agissait là, et sans nul doute, d'une adolescence bien remplie et qui, à bien des égards, relevait de la plus grande difficulté sans parler du contexte de guerre. C'est à cette époque que le jeune Ennio tomba amoureux, à l'âge de 14 ans. Elle en avait 12. Franca étudiait à Sainte-Cécile, dans la même classe. Ennio en était fortement épris, mais leur idylle tourna court. Elle lui avoua vouloir se marier avec un homme riche. Ennio, à ses yeux, ne semblait pas correspondre à son vœu. Il marqua très vite des réticences à l'égard de son instrument principal. En effet, sans jamais manquer un seul cours, il se lassa de la trompette solo dont le répertoire étroit se révélait rarement intelligent. « La trompette n'a jamais été mon grand amour », avouera-t-il bien des années plus tard. Il finira par abandonner cet instrument, ce que son père n'avait, selon ses dires, jamais envisagé. La question se pose de savoir si son engouement à découvrir les grands compositeurs ne résultait pas, pour une grande part, de sa volonté de s'extirper du répertoire à son goût limité de la trompette. Tous les compositeurs renommés retenaient son attention, comme Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi jusqu'à Puccini et Rossini et La Montagne. Jean-Sébastien Bach. Morricone ira jusqu'à donner les prénoms de Giovanni Sebastiano à son dernier fils en hommage au maître. Il représente le socle fondateur de sa culture musicale. En 1943, poursuivant son cursus, il fut admis en classe d'harmonie principale, conformément aux vœux qu'il avait formulés à son entrée. Il s'agissait d'apprendre à maîtriser et contrôler la tonalité, le mode et le renversement de l'accord présent à chaque pulsation en accordant une attention particulière à la mélodie de basse. Le jeune Ennio se révéla doué dans cette matière comme dans les autres. Il assimilait très vite, nettement plus vite que ses camarades, à tel point qu'au terme de la première année d'harmonie, son professeur Roberto Caggiano se rendit compte qu'à ce rythme, l'élève Morricone terminerait avec brio son cursus d'harmonie en 2 ans au lieu des 4 années d'enseignement prévues par l'Académie. Parmi tous les élèves, il fut le seul à entamer la dernière partie des cours et à bénéficier ainsi de toute l'attention de Roberto Caggiano. Celui-ci se montra tellement satisfait des différents travaux de son élève qu'il les montra à ses collègues, eux-mêmes pleins d'éloges à son encontre. L'élève Morricone se faisait d'ailleurs souvent le relais des professeurs pour expliquer et démontrer aux autres élèves tel ou tel point musical. Roberto Caggiano allait de facto avoir un impact déterminant sur la suite des études et sur toute la carrière d'Ennio Morricone. Il l'incita de rechef à aborder la composition. Il pouvait s'agir là d'une évidence, en réalité il n'en était rien. Car à cette époque, selon le musicologue Sergio Micheli, intervenant dans un documentaire réalisé pour la BBC 2 en 1995, passer de la trompette à la composition était perçu comme tout à fait inconvenant. Le professeur dut insister à plusieurs reprises auprès de son père afin d'obtenir son plein accord. N'avait-il pas composé sous l'impulsion paternelle dès son plus jeune âge? Ce n'était pas dans le projet de Mario de permettre à son fils de se diriger dans cette voie, mais il se fit peu à peu à cette idée et en 1944, Ennio Morricone intégra la classe de composition élémentaire, sous la direction de Carlo Giorgio Garofalo, d'Antonio Ferdinandi, puis de l'illustre Goffredo Petrazzi, compositeur italien, ayant exercé une très grande influence sur la musique du XXe siècle. Le jeune Ennio, qui souhaitait emprunter la voie royale pour devenir un virtuose dans la composition, vouait une véritable admiration à ce professeur. Il appréciait sa précision, sa cohérence et sa manière éminemment moderne de composer. Goffredo Petrazzi se souvint de son élève bien des années plus tard. Ennio était un élève très intelligent et attentif. Il travaillait beaucoup, j'en étais très content. Certes, il est difficile de faire des prévisions, mais j'étais assez optimiste quant à son avenir. Car l'élève allait accomplir des progrès notoires et au printemps suivant, il retint enfin l'attention du professeur. Entre eux se noua même une relation privilégiée. La libération de la capitale avait rendu les déplacements plus faciles. Ennio raccompagnait souvent Petrazzi à son domicile une fois les cours terminés. Il allait même jusqu'à sortir précocement de certains autres cours pour ce faire. La conversation était brillante. Ennio évoquait ses compositions, les thèmes qu'il affectionnait chez certains grands compositeurs. Parfois, il discutait de tout et de rien. L'objectif d'Ennio consistait à passer le plus de temps possible avec celui qu'il considérait comme son maître. En retour, Ennio Morricone ne tarissait pas d'éloges sur son professeur qu'il évoqua à l'occasion de nombreux entretiens. Ce n'était pas un simple professeur, mais un maître. Il aimait nous influencer et nous corriger, mais il respectait notre liberté d'expression. Et en 3 ans passés à ses côtés, il ne m'a repris que 3 fois. Petrazzi lui transmit une solide formation musicale et surtout l'amour du travail accompli, avec sérieux, sans tricher, sans le moindre recours à la facilité. Ces notions inculquées à un jeune élève se révélèrent primordiales pour modeler sa personnalité et son caractère. Ennio Morricone ne s'écarta jamais de cette éthique. Elle constitua même le socle fondateur d'une œuvre prompte à magnifier le plaisir et l'intensité de la création. Ennio Morricone sortit enfin diplômé de l'Académie Sainte-Cécile en trompette. Il reçut son diplôme de trompettiste le 11 octobre 1946 avec la note générale de 7 sur 10. Ce sésame, sanctionné par un examen ardu, devait se mériter à un niveau qui laisserait perplexes les musiciens les plus aguerris. Morricone se le remémorera comme un passage de sa vie extrêmement éprouvant. Les examinateurs observaient unanimement un comportement très dur et l'impétrant devait avoir recours aux médicaments pour l'aider à supporter la pression. Sa fiancée Maria lui promit de lui confectionner un de ses desserts favoris, la zuppa inglese, s'il s'en sortait avec des honneurs. Elle ne fut pas peu fière à l'annonce de la note finale de son épreuve principale, 9,75 sur 10. Même après la libération du pays par les troupes américaines, la période n'était pas vraiment favorable à la musique classique, à laquelle Ennio souhaitait consacrer sa vie. Le jazz se répandait comme une traînée de poudre, et tout musicien qui se respectait se devait d'adopter son phrasé, sa sonorité, et laisser libre cours à son talent d'improvisation. La musique inondait chaque lieu, comme pour conjurer la guerre et son triste lot de souvenirs exécrables. Dans les bars, les restaurants, les clubs, les garages, les sous-sols, les studios, les musiciens de Rome et d'ailleurs jouaient jusqu'au bout de la nuit. Pour Mario Morricone et son fils, chercher à se produire dans de jam sessions relevait de la plus haute importance en ces temps de disette. La musique représentait leur seul et unique moyen de faire bouillir la marmite familiale. C'est ainsi qu'il multipliait les concerts donnés en l'honneur des troupes américaines et canadiennes dans des hôtels de Rome pour y jouer la même musique appréciée il y a peu par les Allemands. De l'aveu d'Ennio Morricone, à cette époque, il n'y avait pas d'autre solution que de jouer le soir dans les clubs ou les hôtels fréquentés par les Américains. Lorsque mon père était malade, je prenais sa place. C'est ce qui me motivait et je m'y rendais par devoir, car d'une manière générale, j'y allais pas sans plaisir. Même si la musique m'aidait à oublier les sentiments destructeurs et l'angoisse de la guerre récente. C'est ainsi qu'il fit notamment partie de l'ensemble musical de Constantino Ferri. Ce dernier se produisait le soir à l'hôtel Mediterraneo devant les troupes américaines. Une fois de plus, Mario Morricone avait demandé à son fils de le remplacer. L'apparition de l'orchestre enchantait l'assistance qui réclamait déjà les morceaux en vogue et applaudissait à tout rompre. Et dès les premières notes, chacun se dandinait aux sons plus modernes et syncopés que les autres orchestres romains donnaient à entendre, notamment grâce aux partitions de Dizzy Gillespie et de Don Byas, un saxophoniste moins connu. Les trompettes montaient très haut dans les aigus. En contrepoint, les trombones jouaient très bas. Leur synchronicité produisait l'effet recherché par les musiciens et galvanisait la foule de plus en plus dense. Le jeune Ennio se laissa aller à une joute musicale avec le saxophoniste Vito Musso. La formation joua alors en sourdine pour laisser les deux compères entamer leur numéro en tentant d'anticiper sur le jeu de l'autre, puis en s'échangeant des phrases de 4 ou parfois de 8 mesures, tantôt à l'unisson, tantôt en harmonie, tout en se lançant des contrepoints. Les militaires admiratifs restèrent sans voix, puis leur firent une ovation avant de lever les bouteilles métalliques de leur bière fort pite qu'ils ingurgitaient sans modération sous l'œil vigilant de la military police qui se tenait à l'extérieur de l'établissement à l'affût du moindre début de bagarre. Quand Ennio Morricone jouait, plus rien n'existait. Il ne relâchait jamais sa concentration. Cela tranchait avec l'attitude plus dilettante et cool des musiciens outre-Atlantique qui vinrent de temps en temps s'intégrer à l'orchestre italien. C'était merveilleux et c'est là que la musique a commencé pour moi, se souvint Ennio Morricone. Pour ma vie ultérieure, ce moment a été décisif et la meilleure école. Un grand musicien, précoce et virtuose, était en train de naître. Et ainsi s'achève ce deuxième volet des podcasts dédiés à Ennio Morricone et tiré de la biographie parue aux éditions Marie-B intitulée « Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre » signée Philippe Grégoire. Ça a été publié l'année dernière en 2020. Les différents extraits et citations que nous avons utilisés pour ce podcast proviennent de deux autres ouvrages. L'un paru aux éditions Segui en 2018, signé Alessandro De Rosa, c'est un livre d'entretien avec le maestro intitulé Ennio Morricone, musique, ma vie. Et l'autre, c'est un document intitulé Life Note, copyrighté chez Musica et Oltre, paru en 2016. Enfin, deux documentaires sont également cités, tous deux diffusés par la société de télévision Arte, l'un en 1995, l'autre le 20 mai 2007, et intitulé « Morricone dirige Morricone ». L'extrait musical, composé par le maestro en conclusion de ce présent podcast, s'intitule « The Forkness » et a été enregistré en 2016. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous donner rendez-vous pour le troisième volet.